Alarm phone, hello.
Hello, my friend.
This is Watchman Alarm Phone.
Hello, my friend. This is Alarm Phone.
How are you, my friend?
I hear
How
you.
Many
can
are
you hear me?
Hello, my friend. This
okay,
is
can you give me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique amère.
Chronique amère.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm Phone.
Freedom, item, meet him. Where's your freedom?
Can you
give me your GPS position?
Okay, I call you back.
What kind of boat are you on?
See around you?
Can you give me your GPS position?
You on the
boat? I hear you.
Can you hear me?
Okay, I call you back.
I will call you back.
Let's try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2020, 1760 personnes sont mortes en traversant.
147 personnes par an.
34 personnes par semaine.
Près de 5 personnes par jour.
Et bien, bien plus dont on ne sait rien.
Rien qu'une fois, vers les vagues et tout casser, rien qu'une fois.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la 7e émission de Chronique amère, où on parle des politiques autour des frontières maritimes de l'Europe et de leurs conséquences, et toujours depuis Alarm Phone. Dans cet épisode, on va vous parler de ce qu'on appelle les navires marchands. En bref, cette gigantesque flottille de cargos, rouliers, supertankers et autres porte-conteneurs qui sillonnent les mers au service du capitalisme. La mer Méditerranée, pivot entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe, est un espace stratégique d'un point de vue économique. Ainsi, aujourd'hui, 90% du commerce mondial se fait par voie maritime et un bateau sur quatre transite par la Méditerranée. Mais les frontières n'ont décidément pas le même goût pour tout le monde. Malgré les guerres et les conflits géopolitiques, des millions de tonnes de marchandises circulent sans entrave à travers les océans, tandis que des dizaines de milliers de personnes se noient aux portes de l'Europe à cause de politiques toujours plus meurtrières.
Attention, parce que la situation aux frontières est dure et violente, cette chronique et les cas qui sont racontés peuvent être difficiles à entendre.
Dans Alarm Phone, il existe un groupe de travail spécifique sur les navires marchands. En Méditerranée centrale, ce bout de mer qui s'étend des côtes libyennes et tunisiennes jusqu'à Malte et l'Italie, le trafic maritime est important. Il arrive donc que les personnes qui tentent la traversée croisent la route de ces énormes cargos. Et quand un bateau se retrouve en détresse dans la zone, il n'est pas rare qu'un ou plusieurs bateaux de commerce soient à proximité. Pourtant, il est exceptionnel qu'il se déroute pour lui venir en aide. Dans ce contexte, le but du groupe de travail est de rassembler des informations et des conseils juridiques pour pouvoir faire pression sur les navires marchands, afin qu'ils prêtent assistance aux bateaux en détresse et qu'ils ne ramènent pas les personnes secourues en Libye. Dans cette émission, on va parler du rôle que les navires marchands jouent actuellement dans le secours en Méditerranée centrale, dans une zone où les traversées sont toujours aussi dangereuses et où plus de 1200 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année.
Connie travaille depuis longtemps sur cette question. Elle nous parle des échanges entre Alarm Phone et les navires marchands durant les shifts.
Les navires de commerce jouent un rôle vraiment important en Méditerranée centrale. D'abord parce que les autorités maltaises et italiennes lancent de moins en moins d'opérations de sauvetage, et aussi parce que les bateaux des ONG sont souvent bloqués ou ne peuvent pas intervenir pour différentes raisons. Il est donc essentiel pour nous de vérifier s'il y a des navires marchands ou non autour des bateaux en détresse qui nous appellent. On cherche alors le contact de la compagnie maritime, du propriétaire du navire marchand, et aussi le contact du RCC concerné, c'est-à-dire du centre de coordination maritime auquel est lié le pavillon du navire marchand. On doit ensuite essayer de faire pression pour que le navire marchand porte assistance aux personnes et ne les ramène pas en Libye. C'est très important de leur donner des conseils juridiques dans ce sens. Et aussi, c'est très important de faire pression sur les centres de coordination maritime européens et libyens pour qu'ils ne donnent pas l'ordre de ramener les gens en Libye, ce qu'on appelle un refoulement ou un pushback en anglais, et pour que le capitaine du navire marchand n'obéisse pas à cet ordre de pushback.
Chapitre 5. Règle 33 de la Convention SOLAS. Le capitaine d'un navire en mer, qui est en mesure de prêter assistance et qui reçoit, de quelque source que ce soit, une information indiquant que des personnes se trouvent en détresse en mer, est tenu de se porter à toute vitesse à leur secours, si possible, en les informant ou en informant le service de recherche et de sauvetage.
La navigation maritime, qu'elle soit de la plaisance, de la pêche ou encore du commerce, est soumise à l'obligation de porter secours. Plusieurs conventions internationales régissent le sauvetage en mer et rappellent cette obligation comme la Convention SOLAS, Sécurité de la vie en mer, et la Convention SAR, Recherche et secours. Ces conventions définissent clairement les conditions de coordination des sauvetages et du débarquement des personnes secourues. La Convention SAR a ainsi permis la création des centres de recherche et de coordination des opérations de sauvetage, qu'on appelle aussi MRCC. L'ensemble de ces textes sont adoptés par l'Organisation Maritime Internationale, une délégation de l'ONU qui regroupe 172 États membres. Un navire marchand appartient forcément à l'un ou l'autre des États membres par le pavillon sous lequel il navigue. Il est astreint aux lois de son pays d'attache et donc à ses lois maritimes. Autant dire que la plupart des bateaux qui circulent dans le monde sont soumis à ces règles et ne peuvent y déroger. Dans la réalité de la Méditerranée centrale, tant les États que l'industrie marchande ont une fâcheuse tendance à s'asseoir sur ces lois qui relèvent pourtant d'une longue tradition de solidarité chez les gens de mer. Ainsi, pour ne pas perdre du temps ou de l'argent, les navires marchands ont tendance à ignorer les appels de détresse.
Isis est marin professionnel. Elle a aussi participé à plusieurs opérations de secours en Méditerranée centrale.
Les navires de commerce, enfin les rares qui osent encore obéir aux lois maritimes et qui portent secours à des personnes en détresse en mer, ils font face à de sérieux obstacles au moment de les débarquer. Parce que le capitaine, il a le devoir de secourir quiconque est trouvé en péril en mer, mais ensuite, c'est l'État qui est responsable de la recherche et du sauvetage dans la zone concernée qui doit rapidement trouver un lieu sûr de débarquement. Sauf que très souvent, les États côtiers européens refusent d'attribuer ce port de débarquement, allant même jusqu'à interdire l'accès à leurs eaux territoriales, ce qui est complètement contraire aux conventions qu'ils ont signées. Ou alors ils vont attribuer un port qui n'est pas un lieu sûr, comme Tripoli par exemple. Donc si le capitaine continue d'obéir aux lois internationales, les rescapés, l'équipage et le navire se retrouvent immobilisés en pleine mer. Le cas du navire Étienne Merck se déroule au mois d'août et septembre 2020. Ce navire, c'est un chimiquier et il se trouve à ce moment au large de Malte. Le 4 août, à la demande des autorités maltaises, l'équipage va porter secours à 27 personnes dont l'embarcation est en train de couler. Sauf qu'à la suite de ce sauvetage qu'elle a coordonné, Malte va refuser pendant des semaines d'attribuer un port au navire où les rescapés puissent débarquer. Malte méprise encore une fois les lois maritimes et elle va renvoyer la responsabilité à Copenhague sous le prétexte que le navire bat pavillon danois, qui elle-même va accuser la Tunisie, qui est la destination commerciale initiale du navire, de ne pas l'accueillir. Le 11 septembre, les 27 rescapés vont finalement pouvoir être transbordés sur le Mare Ionio, un navire de la flotte civile, avant de pouvoir débarquer 2 jours plus tard en Sicile. Même si les lois sont claires, l'Europe a laissé 27 personnes pendant 40 jours dans ses eaux territoriales. On pense directement aux conséquences économiques pour la compagnie, mais moins aux difficultés de prendre en charge plusieurs dizaines de personnes sur un navire qui n'est pas équipé pour ça sur du long terme, ou aux risques encourus par les personnes accueillies à même le pont lorsque les conditions météorologiques se dégradent, ou encore à l'impact psychologique de ces longues périodes de blocage pour les rescapés et les membres d'équipage. Et c'est pas seulement à cause d'enjeux géopolitiques, mais c'est aussi dissuasif à l'égard des navires de commerce. Et la compagnie Maersk, dont dépend le navire, le souligne bien. Les autres navires commerciaux, voyant la situation dans laquelle ils se trouvent, ne seront à l'avenir peut-être plus si rapides à répondre aux demandes d'assistance.
Malgré des réticences et des blocages, il arrive que les navires marchands portent assistance à des personnes en détresse. Soit parce qu'on a réussi à faire pression sur les compagnies maritimes, soit parce que les capitaines agissent selon cette solidarité en mer, chère aux marins. Même si elles sont encore rares, ces histoires qui finissent bien confirment que les navires marchands ont un vrai rôle à jouer auprès des personnes qui traversent.
1er avril 2021. Quand on commence la shift à 7h du matin, Alarmphone est en contact avec deux bateaux.
Sur l'un d'eux, il y a 80 personnes, principalement des mineurs venant d'Érythrée et de Somalie. Ils n'ont plus d'essence et rien à manger. Ils ont peur de couler. À 2h49 dans la nuit, Alarmphone a tweeté.
80 personnes en détresse dans la zone SAR maltaise. Elles disent qu'elles ont des problèmes de moteur et appellent au secours, mais le RCC Malte ne répond pas au téléphone. Nous exigeons un sauvetage immédiat vers un port sûr.
Les personnes sur le bateau nous donnent régulièrement leur position GPS. On essaye en continu de joindre les autorités maltaises sans succès. Toujours la même musique d'attente comme unique réponse. À 8h32, Alarmphone tweet.
RCC Malte refuse de répondre au téléphone. Est-ce bien un centre de sauvetage ?
9h04, l'ONG Pilote Volontaire envoie un mail aux autorités, avec Alarmphone en copie. Ils ont repéré depuis leur avion le bateau qui est à la dérive. La position GPS du bateau est 35 degrés nord, 00 minutes, 12 degrés est, 20 minutes.
9h25, les personnes à bord nous appellent, en panique. Elles nous disent qu'elles voient un bateau au loin. Elles pensent qu'il est blanc.
9h35, on appelle Malte. Toujours pas de réponse.
9h48, à l'aide du site Marine Traffic, on repère un cargo à proximité du bateau en détresse. Il s'appelle Cider Roddy. On découvre que ce cargo appartient à une société basée en Suisse. On appelle le bureau de cette société. On tombe sur une personne en charge du fret qui ne comprend pas très bien ce qui se passe.
9h53, on arrive finalement à joindre un chef d'opération de la société du cargo. On lui envoie toutes les informations nécessaires pour organiser un secours. On met en copie les autorités maltaises et italiennes.
10h12, appel à Malte, toujours pas de réponse.
10h15, le chef d'opération de la société suisse nous appelle. Il a contacté les autorités maltaises qui lui ont dit ne pas être au courant de la situation de détresse. On insiste. Malte ne répond pas à nos appels mais a bien été alerté, notamment via de nombreux mails.
10h30, on est toujours en contact avec les personnes à bord. Tout à coup, on voit sur Marine Traffic que le Cider Roddy change de cap et se dirige vers le bateau en détresse. On n'en revient pas.
10h34, le chef d'opération nous rappelle. Il est perdu et doute de nos informations. Malte continue de dire qu'elle n'a jamais été mise au courant de la situation.
Comment lui expliquer que leur société est entrée sans le savoir dans le jeu politique des frontières et que les États mettront tout en œuvre pour empêcher ces personnes d'arriver en Europe? On essaye de le rassurer, de peur qu'il fasse machine arrière. 11h04, Alarmphone tweet.
Il semble que le Cider Roddy se dirige vers le bateau en détresse. De leur côté, les autorités maltaises nient avoir été alertées. RCC Malte, ouvrez votre boîte mail et décrochez votre téléphone. Coordonner des sauvetages est votre devoir.
10h58, les personnes à bord nous disent qu'un grand bateau est en train d'arriver vers elles.
Côté shift, on est très enthousiaste, mais on a aussi peur que les personnes, une fois secourues par le cargo, soient ramenées en Libye. On conseille aux personnes de rester calmes et de ne surtout pas sauter à l'eau. Puis, pendant une heure, aucune nouvelle.
À 11h47, enfin, les personnes du bateau nous appellent. Elles nous annoncent qu'elles sont encore sur leur Zodiac. On est très étonnés. Elles nous expliquent qu'elles ont juste demandé de l'eau et de l'essence au cargo pour pouvoir atteindre l'île de Lampedusa par leurs propres moyens.
À nouveau, on n'en revient pas. On s'attendait à tout sauf ça. La situation est vertigineuse.
14h04, les personnes à bord nous disent qu'elles voient la Terre.
Plusieurs heures après, on apprend que les personnes sont arrivées, saines et sauves, à Lampedusa. Et qu'elles disent merci.
Bérénice est responsable politique des opérations aériennes et de la marine marchande pour l'ONG Sea-Watch. En plus des deux navires agissant sur la zone méditerranée centrale, le Sea-Watch 3 et le Sea-Watch 4, l'ONG a lancé l'opération Airborne en 2017. Deux petits avions, Moonbird et Seabird, survolent régulièrement la zone pour documenter les violations des droits humains qu'ils observent et en informer les autorités. Eux aussi se trouvent régulièrement en contact avec des navires marchands.
Les ONG, les navires humanitaires font toujours l'objet d'investigations. Les bateaux sont bloqués à port. Donc au final, les navires commerciaux se retrouvent seuls en mer Méditerranée centrale, ne sont pas équipés. Les équipages ne sont pas forcément entraînés pour ce genre de situation, des situations tout à fait stressantes. Et ils ont un rôle à jouer en mer Méditerranée centrale actuellement. Alors le 2 octobre, notre avion Seabird donc, était effectivement en train de conduire une opération en mer Méditerranée centrale lorsque l'équipage a aperçu donc, un bateau avec environ 70 personnes à bord dans la zone de recherche et de sauvetage libyenne. Et donc le navire le plus proche était donc l'Asso Ventinov qui a le pavillon italien. C'est un navire qui est très souvent en fait dans cette région. Et au début, donc l'Asso Ventinov a refusé de prêter assistance aux personnes. Puis lorsque Seabird a réitéré vraiment la situation que les personnes étaient en danger, qu'il s'agissait vraiment de personnes en détresse tout simplement, l'Asso Ventinov a accepté de conduire une opération de sauvetage. Lorsque les personnes donc, étaient à bord de l'Asso Ventinov, les soi-disant garde-côtes libyens sont arrivés et l'Asso Ventinov a donc confirmé sur la radio qu'ils n'avaient pas besoin de l'assistance des soi-disant garde-côtes libyens et les personnes ont été donc débarquées ensuite à Lampedusa suite à un transfert en fait, sur un bateau des garde-côtes italiens. Aujourd'hui, il est important que les navires marchands respectent le droit. Et respecter le droit, ce n'est pas déléguer l'obligation de prêter assistance aux soi-disant gardes-côtes libyens, ce que font donc les autorités italiennes, les autorités maltaises, mais aussi donc l'Union européenne en entraînant et finançant donc les soi-disant gardes-côtes libyens. Non, respecter le droit, c'est de sauver toute personne en détresse et débarquer ces personnes dans un port sûr. Et la Libye n'est pas un port sûr.
Le 13 octobre dernier, un tribunal italien a condamné le capitaine d'un navire marchand à un an de prison pour avoir renvoyé en Libye les 101 personnes qu'il avait secourues. Il est encore trop tôt pour savoir quels effets aura cette décision de justice, mais elle pose plusieurs questions. En effet, si on peut espérer qu'elle dissuade les capitaines de navires marchands de favoriser les pushbacks, elle pourrait aussi les pousser à encore plus éviter la zone et ignorer les appels d'embarcations en détresse. Et puis, la criminalisation des équipages de navires marchands occulte le fait que les vrais responsables des violations de droits humains en Méditerranée centrale sont avant tout ceux qui donnent les ordres, c'est-à-dire les États et l'Union européenne.
Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On voulait terminer cette émission avec des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité pour les trois de Ellie Blue, dont nous vous avons parlé dans une autre émission de Chronique amère. Les trois de Ellie Blue, ce sont ces trois jeunes poursuivis en justice parce qu'ils ont refusé d'être ramenés en Libye par le navire marchand qui les avait secourus. Accusés de détournement et de terrorisme, ils ont été immédiatement incarcérés à leur arrivée à Malte. C'était en mars 2019. Ils avaient à l'époque 15, 16 et 19 ans. Ils sont toujours en attente de leur procès.
Des pensées de solidarité aux milliers de personnes exilées qui se révoltent en ce moment en Libye contre les violences dont elles font l'objet et demandent leur évacuation immédiate vers l'Europe.
Des pensées de solidarité aux amis et proches de toutes celles et ceux qui ont perdu la vie en tentant d'atteindre la forteresse Europe.
Des pensées de solidarité, enfin, à celles et ceux qui se déplacent et qui luttent pour que d'autres puissent se déplacer. Merci à celles et ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui nous ont fait des retours et qui y ont participé. Vous pouvez retrouver cette chronique sur le site d'Alarmphone et sur ceux des radios associatives Jet FM et Radio Galère. Et puis vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter watchthemed.net ou le site d'Alarmphone. Rendez-vous le 10 décembre prochain pour une nouvelle émission de Chronique amère. On y parlera des enfants, souvent nombreux à bord des embarcations qui traversent vers l'Europe et pourtant si peu visibles. D'ici là, portez-vous bien, main sur le cœur et point levé.